Lucien vit pendant un mois son temps pris par des soupers, des dîners, des déjeuners, des soirées, et fut entraîné par un courant invincible dans un tourbillon de plaisirs et de travaux faciles. Il ne calcula plus. La puissance du calcul au milieu des complications de la vie est le sceau des grandes volontés que les poètes, les gens faibles ou purement spirituels ne contrefont jamais. Comme la plupart des journalistes, Lucien vécut au jour le jour, dépensant son argent à mesure qu'il le gagnait, ne songeant point aux charges périodiques de la vie parisienne, si écrasante pour ces bohémiens. Sa mise et sa tournure rivalisaient avec celles des dandys les plus célèbres. Coralie aimait, comme tous les fanatiques, apparaît son idole. Elle se ruina pour donner à son cher poète cet élégant mobilier des élégants qu'il avait tant désiré pendant sa première promenade aux Tuileries. Lucien eut alors des cannes merveilleuses, une charmante lorgnette, des boutons en diamant, des anneaux pour ses cravates du matin, des bagues à la chevalière, enfin des gilets mirifiques en assez grand nombre pour pouvoir assortir les couleurs de sa mise. Il passa bientôt dandy. Le jour où il se rendit à l'invitation du diplomate allemand, sa métamorphose excita une sorte d'envie contenue chez les jeunes gens qui s'y trouvèrent et qui tenaient le haut du pavé dans le royaume de la fashion, tels que de Marsay, Vandenesse, Ajuda Pinto, Maxime de Trailles, Rastignac, le duc de Maufrigneuse, Beaudenord, Manerville, etc. Les hommes du monde sont jaloux entre eux à la manière des femmes. La comtesse de Montcornet et la marquise d'Espard, pour qui le dîner se donnait, eurent Lucien entre elles et le comblèrent de coquetterie. « Pourquoi donc avez-vous quitté le monde ?» lui demanda la marquise. « Il était si disposé à vous bien accueillir, à vous fêter. J'ai une querelle à vous faire. Vous me deviez une visite et je l'attends encore. Je vous ai aperçu l'autre jour à l'opéra. Vous n'avez pas daigné venir me voir ni me saluer. Votre cousine, madame, m'a si positivement signifié mon congé. » « Vous ne connaissez pas les femmes, » répondit madame d'Espard en interrompant Lucien. « Vous avez blessé le cœur le plus angélique et l'âme la plus noble que je connaisse. » Vous ignorez tout ce que Louise voulait faire pour vous et combien elle mettait de finesse dans son plan. Oh, elle eut réussi, fit-elle à une muette dénégation de Lucien. Son mari, qui maintenant est mort, comme il devait mourir d'une indigestion, n'allait-il pas lui rendre tôt ou tard sa liberté? Croyez-vous qu'elle voulut être Madame Chardon? Le titre de comtesse de Rubempré valait bien la peine d'être conquis, voyez-vous? L'amour est une grande vanité qui doit s'accorder, surtout en mariage avec toutes les autres vanités. « Je vous aimerais à la folie, c'est-à-dire assez pour vous épouser, il me serait très dur de m'appeler Madame Chardon. Convenez-en. Maintenant, vous avez vu les difficultés de la vie à Paris. Vous savez combien de détours il faut faire pour arriver au but. Eh bien, avouez que pour un inconnu sans fortune, Louise aspirait à une faveur presque impossible. Elle devait donc ne rien négliger. Vous avez beaucoup d'esprit, mais quand nous aimons, nous en avons encore plus que l'homme le plus spirituel. Ma cousine voulait employer ce ridicule Châtelet. Je vous dois des plaisirs. Vos articles contre lui m'ont fait bien rire, dit-elle en s'interrompant. Lucien ne savait plus que penser. Initié aux trahisons et aux perfidies du journalisme, il ignorait celles du monde. Aussi, malgré sa perspicacité, devait-il y recevoir de rudes leçons. « Comment, madame ? » dit le poète dont la curiosité fut vivement éveillée. « Ne protégez-vous pas le héron ? Mais dans le monde, on est forcé de faire des politesses à ses plus cruels ennemis, de paraître s'amuser avec les ennuyeux. » Et souvent, on sacrifie en apparence ses amis pour les mieux servir. Vous êtes donc encore bien neuf. Comment, vous qui voulez écrire, vous ignorez les tromperies courantes du monde? Si ma cousine a semblé vous sacrifier au héron, ne le fallait-il pas pour mettre cette influence à profit pour vous? Car notre homme est très bien vu par le ministère actuel. Aussi, lui avons-nous démontré que, jusqu'à un certain point, vos attaques le servaient, afin de pouvoir vous raccommoder tous deux un jour. On a dédommagé Châtelet de vos persécutions. Comme le disait Delupeau au ministre, pendant que les journaux tournent Châtelet en ridicule, il laisse en repos le ministère. Monsieur Blondet m'a fait espérer que j'aurais le plaisir de vous voir chez moi, dit la comtesse de Montcornet pendant le temps que la marquise abandonna Lucien à ses réflexions. Vous y trouverez quelques artistes, des écrivains, et une femme qui a le plus vif désir de vous connaître, mademoiselle Destouches, un de ces talents rares parmi notre sexe, et chez qui sans doute vous irez. Mademoiselle Destouches, Camille Maupin, si vous voulez, à l'un des salons les plus remarquables de Paris. Elle est prodigieusement riche. On lui a dit que vous êtes aussi beau que spirituel, elle se meurt d'envie de vous voir. Lucien ne put que se confondre en remerciements et jeta sur Blondet un regard d'envie. Il y avait autant de différence entre une femme du genre et de la qualité de la comtesse de Montcornet et Coralie qu'entre Coralie et une fille des rues. Cette comtesse, jeune, belle et spirituelle, avait pour beauté spéciale la blancheur excessive des femmes du Nord. Sa mère était née princesse Chermeloff. Aussi, le ministre, avant le dîner, lui avait-il prodigué ses plus respectueuses attentions. La marquise avait alors achevé de sucer dédaigneusement une aile de poulet. « Ma pauvre Louise, dit-elle à Lucien, avait tant d'affection pour vous. J'étais dans la confidence du bel avenir qu'elle rêvait pour vous. Elle aurait supporté bien des choses. Mais quel mépris vous lui avez marqué en lui renvoyant ses lettres. Nous pardonnons les cruautés. Il faut encore croire en nous pour nous blesser. Mais l'indifférence est comme la glace d'épaule. Elle étouffe tout. Allons, convenez-en. Vous avez perdu des trésors par votre faute. Pourquoi rompre? Quand même, vous eussiez été dédaigné. N'avez-vous pas votre fortune à faire, votre nom à reconquérir? Louise pensait à tout cela. Pourquoi ne m'avoir rien dit? Répondit Lucien. Et mon Dieu, c'est moi qui lui ai donné le conseil de ne pas vous mettre dans sa confidence. Tenez, entre nous. En vous voyant si peu fait au monde, je vous craignais. J'avais peur que votre inexpérience, votre ardeur étourdie ne détruisent ou ne dérangeassent ses calculs et nos plans. Pouvez-vous maintenant vous souvenir de vous-même? Avouez-le. Vous seriez de mon opinion en voyant aujourd'hui votre sosie. Vous ne vous ressemblez plus. Là est le seul tort que nous ayons eu. Mais en mille, se rencontre-t-il un homme qui réunisse à ton esprit une si merveilleuse aptitude à prendre l'unisson? Je n'ai pas cru que vous fussiez une si surprenante exception. Vous vous êtes métamorphosé si promptement, vous vous êtes si facilement initié aux façons parisiennes, que je ne vous ai pas reconnu au bois de Boulogne il y a un mois. Lucien écoutait cette grande dame avec un plaisir inexprimable. Elle joignait à ses paroles flatteuses un air si confiant, si mutin, si naïf. Elle paraissait s'intéresser à lui si profondément qu'il crut à quelque prodige semblable à celui de sa première soirée au panorama dramatique. Depuis cet heureux soir, tout le monde lui souriait. Il attribuait à sa jeunesse une puissance talismanique. Il voulut alors éprouver la marquise en se promettant de ne pas se laisser surprendre. Quels étaient donc, madame, ses plans devenus aujourd'hui des chimères ? Louise voulait obtenir du roi une ordonnance qui vous permit de porter le nom et le titre de Rubempré. Elle voulait enterrer le Chardon. Ce premier succès, si facile à obtenir alors, et que maintenant vos opinions rendent presque impossible, était pour vous une fortune. Vous traiterez ces idées de vision et de bagatelles, mais nous savons un peu la vie, et nous connaissons tout ce qu'il y a de solide dans un titre de comte porté par un élégant, par un ravissant jeune homme. Annoncez ici devant quelques jeunes anglaises millionnaires ou devant des héritières, Monsieur Chardon, ou « Monsieur le comte de Rubempré », il se ferait deux mouvements bien différents. Fût-il endetté, le comte trouverait les cœurs ouverts. Sa beauté mise en lumière serait comme un diamant dans une riche monture. Monsieur Chardon ne serait pas seulement remarqué. Nous n'avons pas créé ces idées. Nous les trouvons régnant partout, même parmi les bourgeois. Vous tournez en ce moment le dos à la fortune. Regardez ce joli jeune homme, le vicomte Félix de Vandenesse. Il est un des deux secrétaires particuliers du roi. Le roi aime assez les jeunes gens de talent, et celui-là, quand il est arrivé de sa province, n'avait pas un bagage plus lourd que le vôtre. Vous avez mille fois plus d'esprit que lui. Mais appartenez-vous à une grande famille? Avez-vous un nom? Vous connaissez des Lupeaux. Son nom ressemble au vôtre, il se nomme Chardin. Mais il ne vendrait pas pour un million sa métairie des Lupeaux. Il sera quelque jour comte des Lupeaux, et son petit-fils deviendra peut-être un grand seigneur. Si vous continuez à marcher dans la fausse voie où vous vous êtes engagé, vous êtes perdu. Voyez combien M. Émile Blondet est plus sage que vous. Il est dans un journal qui soutient le pouvoir. Il est bien vu par toutes les puissances du jour. Il peut sans danger se mêler avec les libéraux. Il pense bien. Aussi parviendra-t-il tôt ou tard. Mais il a su choisir et son opinion et ses protections. Cette jolie personne, votre voisine, est une demoiselle de Troisville qui a deux pairs de France et deux députés dans sa famille. Elle a fait un riche mariage à cause de son nom. Elle reçoit beaucoup. Elle aura de l'affluence et remuera le monde politique pour ce petit monsieur Émile Blondet. À quoi vous mène une Coralie? À vous trouver perdu de dettes et fatigué de plaisir dans quelques années d'ici. Vous placez mal votre amour et vous arrangez mal votre vie. Voilà ce que me disait l'autre jour à l'opéra la femme que vous prenez plaisir à blesser. En déplorant l'abus que vous faites de votre talent et de votre belle jeunesse, elle ne s'occupait pas d'elle, mais de vous. « Ah, si vous disiez vrai, madame !» s'écria Lucien. « Quel intérêt verriez-vous à des mensonges ?» fit la marquise en jetant sur Lucien un regard hautain et froid qui le replongea dans le néant. Lucien, interdit, ne reprit pas la conversation. La marquise offensée ne lui parla plus. Il fut piqué, mais il reconnut qu'il y avait eu de sa part maladresse et se promit de la réparer. Il se tourna vers Madame de Montcornet et lui parla de Blondet en exaltant le mérite de ce jeune écrivain. Il fut bien reçu par la comtesse qui l'invita, sur un signe de Madame d'Espard, à sa prochaine soirée, en lui demandant s'il n'y verrait pas avec plaisir Madame de Bargeton qui, malgré son deuil, y viendrait. Il ne s'agissait pas d'une grande soirée, c'était sa réunion des petits jours, on serait entre amis. « Madame la marquise, dit Lucien, prétend que tous les torts sont de mon côté. N'est-ce pas à sa cousine à être bonne pour moi ?»« Faites cesser les attaques ridicules dont elle est l'objet, qui d'ailleurs la compromettent fortement avec un homme de qui elle se moque, et vous aurez bientôt signé la paix. Vous vous êtes cru joué par elle, m'a-t-on dit. Moi, je l'ai vue bien triste de votre abandon. Est-il vrai qu'elle ait quitté sa province avec vous et pour vous ?» Lucien regarda la comtesse en souriant, sans oser répondre. « Comment pouviez-vous vous défier d'une femme qui vous faisait de tels sacrifices ? Et d'ailleurs, belle et spirituelle comme elle l'est, elle devait être aimée quand même. Madame de Bargeton vous aimait moins pour vous que pour vos talents. Croyez-moi, les femmes aiment l'esprit avant d'aimer la beauté, » dit-elle en regardant Émile Blondet à la dérobée. Lucien reconnut dans l'hôtel du ministre les différences qui existent entre le grand monde et le monde exceptionnel où il vivait depuis quelque temps. Ces deux magnificences n'avaient aucune similitude, aucun point de contact. La hauteur et la disposition des pièces dans cet appartement, l'un des plus riches du faubourg Saint-Germain, les vieilles dorures des salons, l'ampleur des décorations, la richesse sérieuse des accessoires, tout lui était étranger, nouveau. Mais l'habitude si promptement prise des choses de luxe empêcha Lucien de paraître étonné. Sa contenance fut aussi éloignée de l'assurance et de la fatuité que de la complaisance et de la servilité. Le poète eut bonne façon, et plus à ceux qui n'avaient aucune raison de lui être hostile, comme les jeunes gens à qui sa soudaine introduction dans le grand monde, ses succès et sa beauté donnèrent de la jalousie. En sortant de table, il offrit le bras à Madame d'Espard qui l'accepta. En voyant Lucien courtisé par la marquise d'Espard, Rastignac vint se recommander de leur compatriotisme et lui rappeler leur première entrevue chez Madame du Val-Noble. Le jeune noble parut vouloir se lier avec le grand homme de sa province en l'invitant à venir dîner chez lui quelques matins et s'offrant à lui faire connaître les jeunes gens à la mode. Lucien accepta cette proposition. « Le cher Blondet en sera, » dit Rastignac. Le ministre va se joindre au groupe formé par le marquis de Ronquerolles, le duc de Rhétoré, de Marsay, le général Montriveau, Rastignac et Lucien. « Très bien, » dit-il à Lucien avec la bonhomie allemande sous laquelle il cachait sa redoutable finesse. « Vous avez fait la paix avec Madame d'Espard. Elle est enchantée de vous, et nous savons tous, » dit-il en regardant les hommes à la ronde, « combien il est difficile de lui plaire. »« Oui, mais elle adore l'esprit, » dit Rastignac, « et mon illustre compatriote en vend. » « Il ne tardera pas à reconnaître le mauvais commerce qu'il fait, » dit vivement Blondet. « Il nous viendra, ce sera bientôt à des nôtres. » Il y eut autour de Lucien un chorus sur ce thème. Les hommes sérieux lancèrent quelques phrases profondes d'un ton despotique. Les jeunes gens plaisantèrent du parti libéral. « Il a, je suis sûr, » dit Blondet, « tiré à pile ou face pour la gauche ou la droite, mais il va maintenant choisir. » Lucien se mit à rire en se souvenant de sa scène au Luxembourg avec Lousteau. « Il a pris pour Cornac, » dit Blondet en continuant, un Étienne Lousteau, un bretteur de petit journal qui voit une pièce de 100 sous dans une colonne, dont la politique consiste à croire autour de Napoléon, et, ce qui me semble encore plus nier, à la reconnaissance, au patriotisme de messieurs du côté gauche. Comme ruban près, les penchants de Lucien doivent être aristocrates. Comme journaliste, il doit être pour le pouvoir, où il ne sera jamais ni ruban près, ni secrétaire général. Lucien, à qui le diplomate proposa une carte pour jouer le whist, excita la plus grande surprise quand il avoua ne pas savoir le jeu. « Mon ami, lui dit à l'oreille Rastignac, arrivez de bonne heure chez moi le jour où vous y viendrez faire un méchant déjeuner. Je vous apprendrai le whist. Vous déshonorez notre royale ville d'Angoulême, et je répéterai un mot de monsieur de Talleyrand en vous disant que, si vous ne savez pas ce jeu-là, vous vous préparez une vieillesse très malheureuse. » On annonça des Lupeaux, un maître des requêtes en faveur et qui rendait des services secrets au ministère, homme fin et ambitieux qui se coulait partout. Il salua Lucien avec lequel il s'était déjà rencontré chez Madame du Val-Noble, et il y eut dans son salut un semblant d'amitié qui devait tromper Lucien. En trouvant là le jeune journaliste, cet homme qui se faisait en politique ami de tout le monde, afin de n'être pris au dépourvu par personne, comprit que Lucien allait obtenir dans le monde autant de succès que dans la littérature. Il vit un ambitieux en ce poète, et il l'enveloppa de protestations, de témoignages d'amitié, d'intérêt, de manière à vieillir leur connaissance, et tromper Lucien sur la valeur de ses promesses et de ses paroles. Des Lupeaux avait pour principe de bien connaître ceux dont il voulait se défaire quand il trouvait en eux des rivaux. Ainsi, Lucien fut bien accueilli par le monde. Il comprit tout ce qu'il devait au duc de Rhétoré, au ministre, à Madame d'Espard, à Madame de Montcornet, Il alla causer avec chacune de ses femmes pendant quelques moments avant de partir et déploya pour elles toute la grâce de son esprit. « Quelle fatuité !» dit de Lupeau à la marquise quand Lucien la quitta. « Il se gâtera avant d'être mûr !» dit la marquise de Marsay en souriant. « Vous devez avoir des raisons cachées pour lui tourner ainsi à la tête. » Lucien trouva Coralie au fond de sa voiture dans la cour. Elle était venue l'attendre. Il fut touché de cette attention et lui raconta sa soirée. À son grand étonnement, l'actrice approuva les nouvelles idées qui trottaient déjà dans la tête de Lucien et l'engagea fortement à s'enrôler sous la bannière ministérielle. « Tu n'as que des coups à gagner avec les libéraux. Ils conspirent, ils ont tué le duc de Berry. Renverseront-ils le gouvernement? Jamais. Par eux, tu n'arriveras à rien, tandis que, de l'autre côté, tu deviendras comte de Rubempré. Tu peux rendre des services, être nommé pair de France, épouser une femme riche. Sois ultra. D'ailleurs, c'est bon genre, » ajouta-t-elle en lançant le mot qui pour elle était la raison suprême. « La Vanne Noble, chez qui je suis allée dîner, m'a dit que Théodore Gaillard fondait décidément son petit journal royaliste appelé Le Réveil, afin de riposter aux plaisanteries du vôtre et du miroir. À l'entendre, monsieur de Villèle et son parti seront au ministère avant un an. Tâche de profiter de ce changement en te mettant avec eux pendant qu'ils ne sont rien encore. Mais ne dis rien à Étienne ni à tes amis, qui seraient capables de te jouer quelques mauvais tours. »